dernier, je suis venu te voir dans la petite ville du Nord où tu habites maintenant. C'est une ville laide et grise. La mer est à quelques kilomètres à peine, mais tu n'y vas jamais. Je ne t'avais pas vu depuis longtemps. C'était il y a plusieurs années. Au moment où tu m'as ouvert la porte, je ne t'ai pas reconnu. Je t'ai regardé. J'ai essayé de lire les années passées loin de toi sur ton visage. La femme avec qui tu vis m'a dit que tu ne pouvais presque plus marcher. Elle m'a dit aussi que tu avais besoin d'un appareil pour respirer la nuit, que ton cœur s'arrête. Il ne peut plus battre sans assistance, sans l'aide d'une machine, il ne veut plus battre. Tu as à peine plus de 50 ans. Tu appartiens à cette catégorie d'humains à qui la politique réserve une mort précoce.
Bonjour Stanislas Nordet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On vient de vous entendre là sur la scène du Théâtre de la Colline à Paris où vous montez le texte d'Édouard Louis « Qui a tué mon père ?». C'est l'entrée en matière, c'est le début de ce texte qu'on vient d'entendre. Vous êtes vous acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg et de son école. Ce texte d'Édouard Louis a paru l'année dernière, en 2018. Et en fait, c'est un texte qui a été édité, qui est un texte de littérature, mais on apprend que c'est un texte pour le théâtre dès le départ, puisque c'est même une commande de votre part.
C'est ça. C'est, enfin,
peut-être pas celui-là,
très
mais disons d'écrire pour le théâtre.
Voilà, j'avais fait une lecture d'Histoire de la violence au
TNS, précédent livre.
Son précédent livre. Édouard était venu à cette lecture. On s'était rencontrés et dans une conversation au bistrot, après, je lui avais dit « Si un jour tu as envie d'écrire quelque chose pour le TNS, voilà, tu es le bienvenu ». J'ai pas eu de nouvelles et un an après, il m'a envoyé ce texte-là en me disant « Voilà, voilà ce que j'ai composé ». Donc il l'a écrit véritablement pour la scène, pour la parole, pour l'oralité.
Et ce texte vous a plu? Il est à la hauteur de l'attente?
Tout de suite, c'est-à-dire quand je l'ai eu entre les mains. Il a d'ailleurs plu d'abord à l'acteur, c'est-à-dire que j'ai tout de suite eu envie de dire ces mots-là. Après, la mise en scène était un autre enjeu encore. Mais oui, je connais le travail d'Edouard depuis le début. C'est son troisième ouvrage, on va dire, après En finir avec Eddie Belgol et Histoire de la violence. Et j'ai aussi énormément aimé ce pas de côté qu'il faisait aussi dans l'écriture. Il y a quelque chose qui a bougé dans son écriture parce que il savait qu'il écrivait pour la scène aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur l'architecture même de son œuvre qui s'est déplacée et auquel j'étais très sensible.
Qui a tué mon père? On peut dire un mot de l'argument. Hein, c'est un homme qu'on entend là, hein, qui se rend donc chez son père. Il ne l'a pas vu depuis des années et il découvre immédiatement le corps cassé, le corps abîmé d'un homme qui a pourtant une petite cinquantaine. Et il prend la parole, cet homme, ce fils, donc, qui s'adresse à son père, et il se remémore au fur et à mesure du texte des épisodes de son enfance, dans une tentative d'ailleurs d'expliquer comment ce corps du père en est arrivé là, explication sociale, explication économique, explication politique. Ce corps, c'est le symbole d'une classe sociale oubliée de la politique, et la politique vient très très vite dans le texte, puisqu'elle est complètement sous-jacente, c'est le fil rouge. Mais arrêtons-nous un instant d'abord sur ce texte d'une relation entre un fils et un père, parce que c'est un texte de réconciliation finalement. Dans le livre, dans le premier livre d'Édouard Louis, En finir avec Eddie Belgueule, on voyait un père qui était misogyne, raciste, homophobe et qui avait continuellement blessé le fils qui était Édouard Louis. Là, c'est une déclaration d'amour avant d'être un texte politique.
Oui, c'est un chant d'amour, une rencontre finalement. C'est comme si il rencontrait enfin son père. C'est comme si tout d'un coup ils arrivaient enfin à se parler, même si le père ne répond pas, ne peut pas répondre. Mais il y a derrière effectivement un geste qui est un geste d'amour incroyable. Et je pense que c'est ce qui m'a touché le plus. Bien sûr que le texte est un texte politique. Il y a à un moment donné d'ailleurs bascule. Il y a comme un coup de théâtre. Il y a une bascule presque dans le réel. Mais avant toute chose, c'est les relations entre un père et un fils. Et il y a une phrase qui est très belle à la toute fin. Édouard dit ce sont les enfants qui transforment leurs parents et pas le contraire. C'est-à-dire que son père change devant ses yeux. Son père arrive à se transformer sous le regard du fils, par le fils aussi. Donc il y a un mouvement qui est très très beau là-dedans. Et je crois que c'est peut-être ce qui m'a le plus étonné à la première lecture, parce que effectivement les deux premiers
ce renversement livres, plus de, oui, dans l'attitude voilà, d'Edouard voilà. Louis.
Les deux premiers livres étaient avec une espèce de violence comme ça qui était sous-jacente, et ici il y a en fait une extrême douceur et dans l'écriture et dans le rapport à l'autre. La violence, elle vient du monde, elle est la violence qui s'abat sur le père, qui est la violence qui vient de l'extérieur, mais le regard du fils sur le père est un regard d'une infinie tendresse.
Donc la déclaration d'amour, le chant d'amour comme un sanglot trop longtemps retenu. Et puis donc le deuxième aspect qui est plutôt le coup de poing, qui est plutôt le cri de rage, qui est plutôt le manifeste politique avec ces deux temps dans le texte, Stanislas Mordet.
Moi j'ai toujours aimé ces textes-là, hein. J'ai monté le théâtre de Pier Paolo Pasolini et c'est toujours un mélange entre l'intime et le politique. C'est ça qui m'intéresse, c'est quand les deux sont intimement liés. Et là évidemment à un moment donné, un des enjeux d'Edouard dans le texte c'est de nommer les coupables. Le titre, c'est « Qui a tué mon père ?» sans point d'interrogation. Donc il va dire « Qui a tué son père ?» et il va nommer, et ça va être un geste, on va dire, particulier, puisque Edouard dit lui-même « C'est étrange pour moi d'écrire sur la page Sarkozy, Macron,
Hollande.
Xavier Bertrand, Hollande,
Martin
Myriam El Khomri, Martin Hirsch. C'est étrange parce que je l'ai fait entrer dans le domaine de la littérature, je fais entrer ces noms dans l'histoire comme des grands meurtriers. » Alors il cite Richard III de Shakespeare, Adolphe Thiers, Jack l'Éventreur. Il les met au même endroit en racontant que finalement, une décision qui n'a l'air de rien, il prend par exemple la décision, la baisse des APL, des aides pour le logement, de 5 euros. Comment est-ce qu'une décision qui n'a l'air de rien aux yeux du politique est une décision qui impacte profondément dans la chair une grande partie de la population? Et donc, voilà, c'est aussi cette singularité-là qui m'a plu dans le texte. C'est comment est-ce qu'on passe d'une ligne claire qui est presque poétique dans ce rapport du père au fils, sous la neige, il parle souvent de cette neige qui tombe, et puis comment est-ce qu'on entre directement dans le réel, et j'aimais bien ce mélange-là.
Alors on va l'entendre, Edouard Louis, expliquer ce que vous venez de dire avec ces mots, puisqu'il le met comme un concept sur la littérature qu'il a faite, en particulier avec ce texte-là, Qui a tué mon père. Il appelle cela la littérature de confrontation, Edouard Louis.
Il n'y a plus de livres qui sont censurés en France, quasiment. Il n'y a plus de livres qui sont brûlés, il n'y a plus de livres qui sont interdits. Et donc, ce qui fait qu'on a à peu près le droit de tout dire. La question, ça devient comment on peut trouver une forme littéraire qui est telle que ce qu'on va dire va avoir un effet sur la réalité. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans « Qui a tué mon père ?» à travers la brièveté du livre, à travers l'aspect très saccadé du livre, à travers le fait que je donne les noms des gens qui ont produit la mort physique et sociale de quelqu'un comme mon père. Tout ça, toute la construction formelle du livre est une manière d'essayer de produire une littérature de confrontation. C'est-à-dire une littérature de confrontation, c'est une question formelle. C'est comment on trouve une forme pour empêcher les gens de détourner le regard. Un peu comme quelqu'un, on passe dans la rue à côté d'un SDF et on tourne la tête pour ne pas voir la réalité. Il y a beaucoup de manières, beaucoup de stratégies qu'on met en place dans la société, dans nos vies, pour ne pas être confronté à la réalité, pour ne pas être confronté au monde, pour ne pas être confronté à la violence sociale. Et je crois que la littérature, elle peut être le lieu d'une forme qu'on trouve pour empêcher ça, en fait.
Alors c'est étonnant de l'entendre parler de la réalité et de la façon dont, d'ailleurs vous le disiez aussi Stanislas Nordet, la littérature peut rencontrer le réel, parce que c'est précisément sur ce terrain-là que Martin Hirsch a sorti un roman en réponse à Edouard Louis. Maintenant on règle ses comptes non plus en duel, mais par la plume, par livre interposé. Et Martin Hirsch a écrit « Comment j'ai tué son père », un livre qui vient de sortir chez Stock, où il parle, alors il va très fort aussi dans les termes, il parle de révisionnisme social, puisque en fait Edouard Louis accuse Martin Hirsch, parmi les autres que vous avez cités tout à l'heure, d'avoir provoqué la déchéance sociale et physique de son père en instaurant le RSA. Et pourquoi je parle de la réalité, c'est parce que dans sa réponse, Martin Hirsch dit « La thèse de mon livre, c'est qu'Edouard Louis dessert sa cause par son ultra-déterminisme et son refus de la réalité. Il essaie de disqualifier toute tentative de politique sociale pour améliorer la situation. Il explique que si on est énarque et membre d'un gouvernement, on va forcément casser du pauvre. Il se trouve que non. Il refuse la réalité, nous dit Martin Hirsch. » Alors, Où est la vérité, Stanislas Nordet?
La vérité, elle est dans les faits. Édouard le raconte dans le livre. Hein. Qu'est-ce que c'est que le passage du RMI au RSA pour son père? C'est que simplement son père, qui a le dos cassé, il y a un poids qui lui est tombé sur le dos à l'usine, est obligé d'aller balayer les rues parce que sinon il perd ses aides sociales. Donc Martin Hirsch, il a fait de la politique. Hein. Au moment où il s'est engagé avec Nicolas Sarkozy, il a pris des décisions, il a participé à des décisions. Donc il s'est exposé. Il s'est surexposé en tant que politique. C'est aussi, moi, je pense que les politiques ont, moi, j'ai toujours été, on va dire, je crois en la politique. Après, la politique a des conséquences. Et du coup, moi, je trouve extrêmement normal, en plus, que le théâtre interpelle. C'est-à-dire, on oublie souvent que le théâtre, c'est le lieu, c'est la naissance du théâtre, c'est le théâtre grec, c'est l'agora, c'est Eschyle, Sophocle, Euripide, qui n'arrêtaient pas d'interpeller leurs contemporains. On l'a beaucoup oublié en France. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le dramaturge allemand Falk Richter. En Allemagne, ils ont une tradition avec Karl Valentin, avec Brecht. Comme c'est normal, tout d'un coup, d'interpeller les politiques, de les mettre dans l'agora. En France, ça nous érafle plus les oreilles parce qu'on n'a pas une tradition qui est comme celle-ci. En Angleterre, il y a des pièces sur Theresa May, il y a des pièces sur Thatcher, sur Tony Blair. C'est normal. Et là, il y aurait une étrangeté, on va dire, à faire que les politiques soient interpellées sur la scène du théâtre. Et moi, ça, je trouve ça au contraire assez sain, quoi.
Acte incantatoire, d'ailleurs, de l'interpellation théâtrale. Et c'est là peut-être qu'effectivement le livre d'Édouard Louis est avant tout un texte théâtral, même si on peut dire qu'il utilise l'arme littéraire, hein, pour à des fins politiques, puisqu'au fond, c'est quand même le thème principal, c'est quand même la violence. C'est la violence qu'exerce la politique ou le politique sur les corps. C'est la violence que le père a tellement intégré que lui n'appelle plus à la violence, mais la vie. Ouais. Stanislas Nordet. Ouais.
Bah c'est à un moment donné, Édouard dit, tu étais autant victime de la violence que tu exerçais que de celle que tu subissais. C'est-à-dire, il parle notamment de tout le rapport à la masculinité qui est tellement présent et qui est une injonction pour les garçons à l'école et qui fait que l'héroïsme, finalement, quand on vient de ces classes-là, c'est de se rebeller contre l'école, c'est de se rebeller contre le système, donc de ne pas aller au bout de ses études, donc d'être confronté à l'échec sans cesse, dont l'échec scolaire. Et non, c'est ce que j'ai aimé dans le texte, c'est-à-dire que le texte il est frontal, quoi. Il ne prend pas de détour. Alors on peut aimer, on ne peut pas aimer, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas cette frontalité chez Édouard Louis. Moi, je la trouve importante parce que on est quand même en général beaucoup des spécialistes de l'évitement, de passer à côté des choses, de les contourner. Et je trouve que parfois, c'est important que la parole puisse tout d'un coup se dresser et puis qu'on puisse la regarder en face, quoi. Et c'est ce qu'il fait. Il pose des mots au centre de la scène, par mon intermédiaire là sur le théâtre de la Colline, et on les écoute. Voilà, à un moment donné, il dit, est-ce qu'il ne faudrait pas crier pour raconter ton histoire? Est-ce qu'il ne faudrait pas se répéter? Puisque des histoires comme la tienne, personne n'a envie de les entendre.
Donc ça veut dire que pour vous, c'était une évidence de le monter, de le jouer aussi? Surtout... Vous avez dit, vous l'avez lu d'abord comme un acteur, donc ouais. Ça a résonné de façon personnelle en vous.
Oui, parce que moi, ces questions-là de l'exclusion, quelles qu'elles soient, sont des questions qui sont chevillées à mon corps depuis toujours. Donc.
Et puis dans votre pratique d'acteur, pardon de vous interrompre, mais ouais. vous portez souvent la figure d'auteur. Vous l'avez fait avec Falk Richter, vous l'avez fait avec Christophe Pellé, vous l'avez fait avec Pascal Rambert. Vous portez la figure des auteurs à l'intérieur même des textes. Donc ça vous gêne pas non plus.
Ah non, j'aime ça. J'aime être l'auteur, c'est-à-dire que prendre directement la parole de l'auteur, pour moi. Moi, c'est important, c'est porter en moi le corps de l'auteur. Et donc, non, je dois dire que quand j'ai reçu le texte, il y avait une évidence pour l'acteur. Sur le metteur en scène, c'était plus complexe, parce que notamment, il y avait la question de la représentation du père, c'est-à-dire comment le représenter, ce père, parce que quand on lit le livre, c'est un père et tous les pères à la fois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de visage, et donc j'ai choisi des solutions scéniques qui permettent que le père soit un et multiple à la fois, qui ne se réduisent pas à une seule incarnation, et que finalement le fils puisse être comme hanté par ce père qui se démultiplie, qui apparaît sous son regard de plusieurs manières, qui devient son propre corps aussi presque d'une certaine manière.
Mais d'ailleurs, Édouard Louis donne des indications scéniques dans la préface de son livre. Vous les avez suivies à la lettre ?
Alors, il faut jamais suivre complètement à la lettre un auteur. Parce
si
qu'un
ce
auteur,
texte devait voilà. être monté au théâtre, comme s'il n'allait pas l'être, mais bon, si ce texte était monté, il faudrait qu'il neige, il faudrait que ce soit,
voilà, que qu'il ce commence soit dans un champ de maïs, peut-être, un plateau vide. Donc, bien sûr, je me suis inspiré de ce qu'Edouard disait, tout en, il faut toujours trahir les auteurs, il faut à la fois les respecter et les trahir à la fois. Quand un auteur, il livre quelque chose pour la scène, il sait qu'il va être interprété, regardé autrement. Et ce qui me plaît aussi, c'est comment est-ce que quand on monte un texte, on peut arriver à révéler à l'auteur lui-même des choses qu'il n'avait pas entrevues dans son propre texte. Je pense qu'un auteur ne sait pas complètement tout ce qu'il a écrit et qu'il y a un certain nombre de choses qui lui échappent, que le metteur en scène et l'acteur peuvent arriver à faire apparaître malgré l'auteur. Au-delà de lui.
Vous dites la difficulté de finalement de le mettre en scène et surtout de représenter ce père sur scène puisque le fils s'adresse directement au père. C'est un monologue. Sans doute avez-vous réfléchi à la façon de dire aussi ce texte. C'est-à-dire comment dire le texte ? Est-ce qu'on le dit ? Est-ce qu'on l'interprète ?
Oui, surtout qu'il y a plusieurs dans l'architecture du texte, il y a vraiment plusieurs entrées. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont presque de l'ordre du pamphlet dans le texte. Il y a des choses qui sont de l'ordre de ce qu'on pourrait susurrer à l'oreille de quelqu'un à qui on a envie de dire des choses douces et violentes à la fois. Donc il fallait trouver plusieurs modes de profération pour l'acteur, plusieurs rapports d'écoute pour le public. Il y a des choses qui sont à la fois très très données au ciel, au plateau, au monde, et puis il y a des choses qui sont dites au micro, très douces à l'oreille du spectateur et du père finalement. Donc il fallait travailler, oui, sur plusieurs modes de parole.
C'est un acte politique pour vous de le monter aujourd'hui, ce texte-là, Stanislas Nordet ?
Oui et non. Alors oui, parce que pour moi, tous les textes que je porte au théâtre, ils ont une portée politique, mais ce qui m'intéresse toujours d'abord, c'est la portée littéraire. C'est-à-dire, je choisis toujours un texte parce qu'il y a une langue avant toute chose qui m'attrape. Et là, c'était le cas. C'est-à-dire que c'est vraiment la langue qui m'a intéressé. Je trouve qu'il y a quelque chose dans l'écriture d'Edouard qui me touche dans la structure de la langue. Et je trouvais aussi qu'on parlait beaucoup souvent de la portée politique de son texte, mais j'avais aussi envie de faire entendre la portée poétique du texte.
Stanislas Nordet, je disais que vous étiez comédien, metteur en scène et directeur de théâtre. Est-ce qu'on peut être artiste et diriger une institution en même temps ?
Oui, absolument.
La preuve, vous allez me dire.
Non, mais...
Ça fait 5 ans que vous occupez vos fonctions.
C'est difficile parce que quand on est directeur de théâtre en France, en tout cas, peut-être à la différence d'autres pays, on doit prendre un peu en charge toute la direction, y compris une partie de la direction administrative, on va dire. On doit être partout. C'est absolument passionnant parce que on peut véritablement faire des choses. On peut faire des choses qui n'ont pas simplement à voir avec des décisions artistiques, mais toute la politique, on va dire, aussi d'éducation artistique, toute une série de choses qui sont extrêmement importantes dans le théâtre public en France et dans le service public de la culture et de l'art. Et donc ça, c'est toujours une chose qui m'a passionné. Et je l'ai fait très tôt, quand j'ai commencé à 30 ans, j'ai co-dirigé, j'ai dirigé des théâtres. J'avais abandonné ce terrain-là pendant un bout de temps et je suis revenu à Strasbourg aussi parce qu'il y a une école à Strasbourg avec 50 jeunes étudiants, metteurs en scène, acteurs, scénographes, dramaturges. Et on prépare aussi l'avenir du théâtre quand on dirige une école. Donc il y avait tout ça qui m'importait. Oui, c'est très important, je trouve, que des artistes dirigent les institutions.
Pour quelle raison ?
Parce que c'est pas pareil. Il y a ce qu'on appelle des intendants qui sont des formidables directeurs parfois. Par exemple, Hortense Archambault qui dirige la MC93 à Bobigny, qui est quelqu'un qui est ce qu'on appelle une intendante. Il y a des formidables intendants, mais la présence de l'artiste, elle apporte autre chose par définition. Elle apporte d'autres questions, d'autres regards. Elle bouge les choses, elle les secoue parce que y a d'autres questions qui se posent quand on est artiste, parce qu'on est concrètement sur les plateaux, devant les publics. On éprouve dans notre chair ce qui advient tous les soirs. Et donc, d'autres choses apparaissent.
Vous avez encore le temps de diriger votre théâtre, alors que je disais au début de cet entretien que vous êtes un peu partout. En 2019, en tous les cas, on vous voit partout. On vous voit depuis le début de l'année, on va vous voir jusqu'en juillet, puisque vous allez être à Avignon, dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Vous avez le temps d'être à Strasbourg encore ?
Bien sûr, là il y a juste une espèce de conjonction où je suis 2 mois d'affilée à Paris pour jouer, mais oui, je suis à Strasbourg, je vis à Strasbourg, et c'est d'ailleurs, ça a été pour moi, je dirais, une belle rencontre, la rencontre avec la ville et avec le théâtre de Strasbourg, parce que c'est une ville assez particulière où la culture est très très présente, il y a un engagement très fort de la municipalité sur le budget de la culture, 25% du budget, c'est énorme hein, pour une ville sur la culture, donc il y a quelque chose de particulier à Strasbourg aussi qui se passe dans le rapport au public, à la façon dont notamment les jeunes viennent au théâtre. Oui, Strasbourg, j'y suis, j'y reste.
Bon, on va reparler de Strasbourg dans 2 minutes, juste après les titres de l'actualité. Il est 7h30, Stanislas Nordet, restez bien avec nous. Stanislas Nordet, notre invité ce matin, il le monte et joue « Qui a tué mon père ?» d'Édouard Louis. C'est en ce moment même au Théâtre de la Colline à Paris, mais ça va tourner, et en particulier, vous allez le jouer, si je ne m'abuse, au TNS, c'est-à-dire le Théâtre National de Strasbourg que vous dirigez. Ça sera en mai. Théâtre National de Strasbourg, il se trouve que c'est le seul théâtre national en région. Est-ce que ça vous donne une responsabilité, une charge particulière de diriger un théâtre public en 2019 et de porter ce théâtre national qui est le seul donc en région?
Oui, parce que c'est toute l'histoire de la décentralisation théâtrale. Effectivement, c'est le seul théâtre national. Il y a 5 théâtres nationaux en France. Hein, le théâtre de l'Odéon, la Colline, Chaillot, la Comédie Française et le Théâtre National de Strasbourg. Donc il y a une charge particulière, d'autant plus que c'est le seul théâtre national qui a en son sein une école. Hein, puisqu'il n'y a pas d'école à la Comédie Française, il n'y a pas d'école à l'Odéon. Donc il y a un double mouvement qui est passionnant. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de diriger ce théâtre-là. Parce qu'on invente à la fois l'avenir du théâtre, et puis on est porteur de toute une histoire, qui est cette histoire quand même formidable de, à une époque, en 1945, il y avait du théâtre d'art uniquement à Paris. Il n'y en avait nulle part ailleurs. Et le grand mouvement de la décentralisation a fait que dans toutes les grandes villes de France, aujourd'hui, il y a une vie culturelle assez forte autour des théâtres, mais qui est une histoire qui est encore en train de s'écrire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle pour le numérique de ces zones blanches où il n'y a pas d'accès à Internet, mais pour la culture, il y a aussi un certain nombre de zones blanches là en dehors des grandes villes. Donc là, il y a un boulot de dingue à faire pour les nouvelles générations aussi qui veulent. Moi, je suis déjà un peu un vieux truc quand même.
Non.
Donc il y a une belle histoire à écrire encore sur la décentralisation théâtrale. Toute la nouvelle génération de Caroline Guéhella, Thomas Joly, Julien Gosselin, Vincent Macken, c'est-à-dire tous ces jeunes créateurs sont là aussi pour faire avancer cette histoire-là, et au TNS, on les accueille à la fois à l'école et aussi évidemment sur les scènes du théâtre.
Il y a d'autres théâtres qui portent des noms de théâtre national, le Théâtre National de Bretagne, le Théâtre National Populaire de Villeurbanne.
C'est pas vrai.
Ils ne sont pas nationaux, ces théâtres-là.
Non. Ils sont autoproclamés un jour, mais ils sont pas nationaux. Non, certains sont ce qu'on appelle des centres dramatiques nationaux, mais ils ne font pas partie de ces 5, on va dire, joyaux de la couronne du théâtre français.
C'est important de le rappeler en ce moment, parce que manifestement, au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, donc, on a du mal à trouver un remplaçant, un successeur, plus exactement, à Christian Schiaretti, qui terminera son mandat en 2020. En particulier, on a du mal à trouver des candidatures féminines. Et vous avez signé, avec d'autres, Stanislas Nordet, dans Libération le 4 mars dernier, une tribune collective intitulée « Où sont les femmes qui pourraient diriger le TNP ?» Qu'est-ce qui se passe ?
Il y a une vraie question. Aurélie Filippetti, quand elle était ministre de la Culture, avait fait un vrai boulot pour faire que les femmes accèdent au poste de directeur de théâtre, directrice de théâtre. Et elle avait calculé que pour arriver à avoir la parité, il faudrait pendant, je pense, 10 ans, ne nommer que des femmes pour, voilà. Moi, j'étais pour. C'est-à-dire, j'ai toujours été pour les questions de discrimination positive quand on a un retard énorme. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose effectivement qui est en route. Alors après, les conditions au départ de sélection là pour le TNP excluaient un certain nombre de femmes, puisqu'il fallait avoir répondre à un certain nombre de critères qui étaient déjà excluants au départ. C'est difficile de rentrer dans le détail, mais en tout cas, je pense qu'il faut continuer à affirmer qu'on est très en retard en France sur toutes ces questions de parité et que on ne peut faire avancer les choses que avec un volontarisme affirmé
et décomplexé. Qu'est-ce que vous faites, vous, au TNS, vous êtes engagé à ce qu'il y ait autant d'actrices que d'acteurs sur scène à la fin de votre premier mandat? Vous allez y arriver?
Oui, on y arrive. Et toute la question, ce qu'on appelle aussi de la diversité, c'est on a fait un boulot énorme pour que sur les scènes, et notamment les jeunes acteurs et actrices, soient réellement représentatifs de la société française, c'est-à-dire que toutes les générations issues des dernières couches d'immigration puissent être représentées sur les scènes du théâtre. Et dans l'école du TNS, par exemple, on a la moitié des élèves qui sont issus de ce qu'on appelle la diversité, ce qui est un vrai combat qu'il faut mener pour que les choses aussi avancent sur la représentation du monde sur nos scènes. Parce que ça, je pense que c'est une vraie question. Qui est-ce qu'on met sur les scènes de théâtre? Quelles histoires on raconte? Et là, on en revient aussi à Édouard Louis. C'est-à-dire, l'importance aussi de faire Qui a tué mon père, c'est de faire que sur la scène de théâtre, il ne puisse pas y avoir que des rois, que des princes, que de la représentation de l'aristocratie, mais la question du monde en marche, de notre société, de voilà, qui est-ce qui est là, quelles sont les histoires qu'on raconte aujourd'hui. Je pense que c'est une vraie question.
Stanislas Nordel, le Théâtre National de Strasbourg, le TNS, a 50 ans, c'est un bel âge?
Ah oui, bah oui, c'est tout jeune ou c'est très vieux, c'est les deux à la fois, mais en tout cas c'est une promesse, donc on fait un grand boulot qui s'appelle TNS 2068, en imaginant comment on s'adresse aux spectateurs, aux artistes du TNS, pour savoir comment est-ce qu'ils rêvent le théâtre dans 50 ans, comment est-ce qu'on fêtera les 100 ans du TNS en 2068.
Eh ben merci d'être venu en 2019 déjà, nous parler de tous ces projets, de votre dernière mise en scène et du reste. On va se quitter avec Judy Garland.
Ah bah oui, c'est bien ça.
C'est bien ça. Ouais. Allez, by myself.
I'll go my way by myself. This is the end of romance. I'll go my way by myself. Is only a dance. I'll try to apply myself and teach my heart how to sing.
Qui a tué mon père? C'est donc au Théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 3 avril, puis en tournée avec, pour commencer, au TNS, au Théâtre National de Strasbourg, du 2 au 15 mai. Au TNS, où va bientôt commencer John de Wajdi Mouawad, du 18 au 28 mars, qui sera repris au Théâtre des Quartiers d'Ivry, du 9 au 19 avril. Et vous serez de nouveau à Paris, Stanislas Nordet, avec la reprise de Je suis Fassbinder, de Falk Richter, au rond-point du 5 au 28 avril. Entre-temps, vous serez donc à Strasbourg, on l'a compris. Merci beaucoup d'être venu ce matin.